Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 12 consacré à Reel de Kurosawa qui est en salle le 26 mars prochain. Pour parler du film et un peu de l'univers de Kurosawa sur lequel nous allons revenir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe d'écrannoir.fr. Salut Christophe.
Bonjour Istasia.
Et j'ai de manière assez étrange toute l'équipe de Deauville qui est avec moi. J'ai donc Frédéric qui est là. Salut Frédéric.
Salut.
J'ai Marc qui est également là.
Salut.
Salut Marc. Jérémy.
Salut à tous.
Elvire.
Salut.
Julien.
Salut.
Et Nicolas.
Salut.
Nous allons commencer par parler très succinctement de Reel après un petit résumé par Marc qui est là-bas. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le film, s'il te plaît, Marc?
Oui, tout à fait. Alors, le scénario, c'est très simple. Ça parle d'un homme qui est marié depuis quelques années donc à sa tendre épouse, mais qui est tombé dans le coma depuis à peu près un an, je crois.
Et épouse.
Son épouse, oui. Qui est tombé qui est dans le coma depuis un an à peu près. Et la technologie étant tellement bien faite dans les hôpitaux, il y a un appareil qui permet de rentrer en contact avec l'esprit d'une personne qui est tombée dans le coma. Donc, l'homme décide de franchir le pas et de rentrer en contact avec sa femme pour savoir un petit peu ce qu'elle ressent et... voilà, pourquoi elle est encore dans le coma et quand elle compte se réveiller pour revenir avec lui. Et donc, il décide d'aller dans cet hôpital et de faire l'expérience. Donc, c'est une expérience où on met des diodes dans le cerveau à peu près, sur sa boîte crânienne. Et pendant un court temps, à peu près, entre 30 minutes et une heure, les deux personnes peuvent être connectées psychiquement et peuvent communiquer. Donc, ça, c'est le pitch de départ.
Très bien, donc c'est donc une des rares incursions de Kurosawa dans l'univers de la science-fiction. Est-ce que on va faire déjà un premier tour de table pour savoir si celle-ci vous a semblé réussie. Christophe, qu'as-tu pensé du film? Alors, juste pour la règle du jeu, on va faire une première partie très succincte, sans spoiler, et ensuite j'annoncerai la balise spoiler, et là on va débattre du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ou vous pouvez écouter ce qu'on va dire à vos risques et périls. Mais là, on va en parler sans spoiler. Donc, Christophe.
Moi, il y a une chose un peu technique qui m'a relativement surprise en voyant le film. C'est dès le début, c'est la machine qui permet de rentrer en contact avec l'esprit de la personne qui est inconsciente dans le coma. Et en fait, il y a eu un film l'année dernière qui était sorti avec ce même genre de machine, dont j'ai oublié le titre, mais c'était un film qui se passait en Europe de l'Est. Je ne sais pas si c'est quelque chose à quelqu'un.
Il y a un silence absolu autour de la table.
L'histoire, c'était il y avait justement une personne qui était plongée dans le coma et il y avait une expérience un peu scientifique où quelqu'un rentrait en contact avec son esprit à travers une machine et c'était le même genre. Et en fait, la personne qui rentrait en contact dans l'esprit recevait des signaux un peu pas compréhensibles. Puis après, c'était des images et après, c'était du coup des scènes un peu oniriques. Voilà. Enfin, du coup, le principe de la machine pour entrer en contact de l'esprit, c'est quelque chose qui me parut relativement... crédible en fait. Et au fur et à mesure du film, le fonctionnement de la machine s'expliquait de manière assez simple. Et en fait, même si technologiquement c'est un peu étrange, le spectateur, même s'il connaît rien, il trouve ça tout à fait normal, cette machine qui vient d'entrer dans l'esprit de la personne qui est inconsciente. Et on suit ça très facilement.
Frédéric,
Pour rejoindre Victor, c'est vrai que le pitch de départ, on peut penser que ça ressemble à beaucoup d'autres pitchs. Ça ne paraît pas d'une originalité folle en soi, mais Kurosawa arrive sans aucun problème à y mettre sa patte et à même aborder des choses qu'il n'a jamais abordées d'une manière assez différente et assez surprenante. Tout en étant un film totalement dans la lignée de ses obsessions et de ce qu'il aime faire et de ce qu'il fait toujours. Moi, je trouve que c'est un film très beau, très touchant, très kurosawaïen. C'est pas aussi parfait que d'un point de vue rythmique, d'un point de vue cinéma, c'est pas aussi monstrueusement formidable et enthousiasmant que pouvait l'être Shokuzai ou Tokyo Sonata qui étaient ces deux derniers films, Mais c'est, il n'empêche, extrêmement fort, intéressant, et il nous prouve encore une fois que c'est vraiment l'un de... Enfin, pour moi, c'est mon cinéaste asiatique préféré de toute manière. Donc j'annonce la couleur là-dessus, et ça n'a pas changé en voyant ce film-là, quoi. Donc voilà, ça c'est... Pour résumer succinctement, il y a aucun souci. Je ne suis pas fâché envers Kurosawa, je continue à penser que ce type est un génie, point barre. Voilà.
Marc, penses-tu que l'huile soit l'œuvre d'un génie?
Oh bah déjà, je sais pas si Kurosawa est un génie, en tout cas il a fait des très très bons films. Bah moi j'ai été un... C'est pas un petit peu déçu, mais c'est que j'ai trouvé que le film était très beau esthétiquement, c'est bien regardé, mais il m'a pas véritablement marqué. En fait j'étais même un poil un petit peu déçu à la sortie de la salle. Enfin, j'ai du mal à expliquer les raisons, mais je pense que c'est surtout qu'il n'y a rien qui m'a vraiment frappé et qui m'a vraiment marqué. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de rythme et d'histoire un petit peu médiane, qui est très fluide, qui fonctionne très bien. On comprend tout dans le film, c'est vraiment esthétiquement très beau. Même l'idée de départ est vraiment géniale, je trouve. Mais il n'y a rien qui... Ça n'a pas fait tilt, quoi. Donc je trouve que c'est un film assez moyen au final. Pour moi, enfin, ça m'a pas touché.
Donc bah, je rejoins Fred en disant que malgré le film de commande, malgré le fait que ce soit un truc, voilà, un pitch qu'on a qui peut faire penser à Inception, à Paprika, de Satoshi Kon, les trucs des explorations de l'inconscient, etc., ou à Je t'aime, d'Alain Resnais, je trouve que Kurosawa a réussi quand même à insérer ses fantômes à lui. On sent tout de suite dès le premier plan qu'on est bien dans un film de Kurosawa. C'est inquiétant, mais en même temps, il nous fait un film très lumineux. C'est avant tout ce qui m'a touché, c'est avant tout c'est l'histoire d'amour finalement, parce que c'est mon petit côté fleur bleue, mais l'histoire d'amour m'a beaucoup touché. Je trouve que si on l'apprend, si on prend le film sans cynisme, si on se laisse emporter un peu par le, si on se laisse emporter par ces deux personnages et par leur destin, parce qu'ils se jouent entre eux, je trouve que ça, il y a un souffle lyrique dans ce film qui est vraiment terrassant, et je trouve que c'est un vrai grand film. Je disais que je l'avais revu une deuxième fois cet après-midi et qu'il y avait un côté surexpliqué, sursignifié qui m'avait un peu dérangé dans cette deuxième vision, où il y avait beaucoup de dialogues explicatifs, ça passait moins par l'image par moment, et donc ça m'a un peu gêné, ça m'a un peu dérangé. Mais j'ai pas l'impression qu'en la première vision, ça choque beaucoup de monde en fait, mais ça n'enlève rien à la beauté du film
Eh bien, est-ce que ce côté explicatif du film t'a de ton côté un peu dérangé?
Je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas particulièrement tilté sur ça en fait. À la deuxième vision, peut-être. Je vous en dirai plus quand je l'aurai revu. Je vais rejoindre un peu l'avis de Marc en fait. Le film est très beau esthétiquement, il est superbe, il est touchant, mais j'ai pas non plus été très emballée. Je pense que je l'oublierai assez rapidement, en fait, ce
Mais
film.
non, tu peux pas l'oublier, quoi.
Je suis désolée si Shokuzai m'avait vraiment marqué. Là, un peu moins, en fait. Mais ça reste un très beau film. Mais je suis pas trop rentrée dedans.
Julien, est-ce que tu te souviens encore du film? Il y a quelques mois qui séparent la projection
Bah,
et
honnêtement,
ce
un tout
soir.
petit peu, et je pense que je le reverrai pas, et je rejoins Marc et Elvire. Sur le fait que j'ai trouvé ça assez moyen, alors que j'avais vraiment bien aimé Tokyo Sonata et Shukusai. Dans Reel, j'ai constaté une certaine répétition dans la narration. J'ai même pas été touché particulièrement esthétiquement, que ce soit par la photo ou par les plans. Après, peut-être que j'étais peut-être pas de bonne humeur quand je le voyais, quoi. Mais non, ce que j'ai vraiment détesté en tout cas dans le film, c'est la partie effets spéciaux qui contrastait complètement et que moi j'ai pas accroché. Après, je suis pas un grand fan de Kurosawa, donc.
Nicolas, seras-tu du camp de
Jérémy? Moi, tu sais, c'est un peu comme la Suisse, je suis un peu neutre avec tout le monde à la fois. C'est-à-dire que je rejoins en même temps Marc et Jérémy et Fred. C'est-à-dire que c'est un très beau film. C'est vrai qu'il y a une identité visuelle que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est vrai que le pitch de base est assez génial, que l'univers est très cohérent et se tient. Après, je trouve que le film est trop long déjà, qu'il y a beaucoup de longueur, qu'il y a vraiment des séquences qui auraient pu être raccourcies parce que il y a des moments où voilà, il y a des moments un peu contemplatifs où il va essayer de trouver des réponses. Bon, là je spoil pas, mais il va essayer de trouver des réponses et un peu farfouiller sur une île ou des trucs comme ça pour trouver des réponses. Et enfin, sa balade elle dure 10 minutes alors qu'elle pourrait en durer 2, quoi. Donc ouais, c'est un peu long à certains moments. Après, c'est là où je suis pas trop d'accord, enfin, c'est mon ressenti personnel, mais je rejoins pas Jérémy, c'est que je ne vois pas trop d'alchimie entre les deux, enfin le couple d'acteurs principaux. Je n'ai pas été trop touché par cette histoire d'amour. Je la comprends, mais je ne me suis pas trop identifié à ces deux personnages. En fait, surtout à l'acteur. Je trouve un peu tête à claque. Voilà. Donc un peu mitigé, même si c'est quand même un beau film assez original dans son traitement et dans son propos.
C'est vrai que moi, je vais pas encore dire dans quel camp je me place, mais en tout cas, je suis déjà très content de voir que Kurosawa a retrouvé un bon rythme de tournage, qui revient sur le grand écran. Quand même, enfin, son dernier long métrage, c'était Tokyo Sonata. Il a essayé d'écrire des scénarios qui n'ont pas été transformés finalement en réalisation jusqu'à son passage à la télévision pour Shokuzai. Et ça fait plaisir de le retrouver si vite au cinéma après le succès de Shokuzai, avec voilà, en tout cas un film et certainement d'autres qui vont suivre très, très bientôt. En tout cas, de voir effectivement un grand cinéaste japonais contemporain remis sur les rails grâce à la télévision. Et en tout cas grâce à ce film. Si vous vous référez au podcast numéro 3, on parlait de Daon et les hommes. J'avais annoncé une balise spoiler parce qu'il y avait un twist dans le film de Dong Song-soo. C'était un peu une blague. Néanmoins, ici, il y a vraiment un twist qu'il ne faut pas savoir si vous n'avez pas vu le film. Donc, si vous n'avez pas encore vu, le film sort le 26 mars. Éteignez le podcast ou laissez-le ouvert, ça nous fait plus de. Vous le retrouverez à votre retour. Allez voir le film et revenez nous écouter, car nous allons débattre maintenant de l'intégralité du film, qui repose sur un retournement de situation, car le film est scindé en deux. Et je vais commencer par parler justement d'un effet de ce retournement qui insinuait un point négatif, Nicolas, dont tu parlais, qui était l'alchimie en fait entre les deux acteurs. Et je trouve que Reel est une histoire d'amour très réussie, et effectivement qui est elle-même en deux parties. C'est-à-dire qu'on a le quotidien d'un couple. Dans la première partie, c'est elle qui est dans le coma et lui qui va la chercher. Et effectivement, il y a une étrangeté dans le rapport entre les deux personnages, une certaine forme de froideur et de distance qui est créée. Sauf qu'on se rend compte, et là je spoil un peu, que finalement, la femme qui est dans le film n'est pas un vrai être, mais en fait juste une projection mentale du personnage principal. Et je trouve que ça explique en partie et justifie la froideur de cette première partie, alors que leur relation et le personnage féminin est complètement transfiguré dans la deuxième partie, où c'est elle qui prend l'initiative, et où leur relation est beaucoup plus, alors en tout cas beaucoup plus vivante, beaucoup plus crédible. Et je trouve que là, l'alchimie se crée vraiment dans la première partie, et l'étrangeté que l'on sent dans leur relation un peu à distance, on comprend pas vraiment pourquoi cet homme agit comme ça dans cette première partie, est complètement en fait justifié par ce retournement de situation et cette voilà cette narration scindée.
Je suis assez d'accord avec toi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je trouve là quand même la deuxième partie beaucoup plus vivante et beaucoup plus lumineuse, comme aime à l'appeler Jérémy. Et il faudrait déjà, parce que moi je ne l'ai pas revu, là je l'avais vu il y a 3-4 mois quand elle était passée au pif, et c'est vrai, là je ne suis pas allé le revoir, mais il faudrait que je le revoie à sa sortie pour voir justement, je m'attache beaucoup plus à cet aspect-là du film, qui m'est peut-être un peu paru, enfin ouais, un peu paru étrange à la première vision, quoi.
Oui, tu veux rebondir sur le sur les thématiques du film
et sur
notamment parce que Will, enfin sur peut-être sur l'angle justement de la love story et de l'histoire d'amour.
Ouais, pourquoi pas. Parce que disons-le, puisque nous sommes sous base spoiler, attention là, je vais vraiment révéler directement quel est le twist. C'est en fait le mec, c'est lui qui est réellement dans le coma, c'est pas elle. À nouveau, on rejoint le fait que, comme je disais, le pitch n'est pas original, le twist n'est pas original pour un sou non plus. On s'en fout. C'est absolument pas du tout le problème. Par contre, la façon dont Kurosawa le fait, c'est, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que, déjà, c'est une inversion totale des rôles au niveau du couple, et une inversion totale du point de vue, et ça nous permet de vraiment brasser dans le thème de la love story. L'ensemble des points de vue, c'est-à-dire au début on est vraiment sous le point de vue de l'homme et après on est sous le point de vue de la femme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on n'a pas spécialement l'impression de changer de film, de changer de genre. Le twist ne change pas grand-chose finalement. Et du coup, on sent l'harmonie entre les deux personnages de certaine façon. Et ce que je trouve, et là où je trouve ça extrêmement fort, là je vais plutôt parler de l'aspect formel du film, c'est que. Là où Kurosawa fait très fort, c'est qu'il a développé une esthétique un peu fake. Tu parlais des effets spéciaux, Julien, mais justement, il développe une esthétique un peu fake tout au long du film. Notamment, il y a une scène en voiture où on est censé être dans le monde de la vérité véritable, où on est dans aucun subconscient ou quoi que ce soit, où on est en voiture et là on se dit mais il se fout de notre gueule, c'est quoi ce fond vert derrière, c'est absolument pas crédible. En fait, il s'avérait que c'est tout à fait normal parce qu'on est dans le subconscient du type. Et dans cette esthétique, et ça m'a fait penser par exemple à Existence, qui alors je spoil Existence aussi d'une certaine manière.
Non, 96,
mais voilà, on peut le faire. 99, mais 99, ouais. Mais il y a cet aspect là aussi, c'est finalement tout ce qui peut paraître comme étant les défauts du film sont finalement justifiés après coup, parce que justement c'était cette étrangeté, cette impression de mais ça c'est pas normal, ça devra pas se passer comme ça, est justifié après coup par un twist scénaristique. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, à mon sens, de la part de Kurosawa, c'est que il se dit, comme c'est quelqu'un d'extrêmement visuel au final, c'est qu'il fait ça de manière extrêmement visuelle avec une image qui moi me fascine. C'est-à-dire que les couleurs de ce film, l'esthétique de ce film, cet aspect fake. Est voulu, est complètement dans la logique de son scénario et de son fond, et ça donne quelque chose de totalement réjouissant, qui est que les personnages ressemblent à des personnages de manga. On l'a pas dit, mais le manga a quelque chose de très important dans le film, puisque le personnage principal, les deux, à nouveau dans l'idée de l'inversion des rôles, les deux sont des auteurs de manga. Il s'avère que c'est le mec qui l'est, mais au départ, pendant toute la première moitié du film, on croit que c'est la femme qui l'est. Et donc, il partage cette passion-là. Et les personnages paraissent être des personnages de manga. Mais visuellement, alors ce sont des acteurs live, il y a quelque chose dans le choix de l'éclairage, dans le choix des acteurs aussi. Au début, j'ai très vite, quand j'ai vu l'acteur, la gueule de l'acteur principal, je me disais, mais où est son acteur fétiche que j'adore, dont j'ai oublié le nom, mais qui joue dans Cure, Rétribution, Charisma et tous ces films-là. Où est cette gueule déchirée? Pourquoi on a ce type-là qui a une gueule complètement lisse? Au final, il ressemble à un personnage de manga, et au final, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est absolument parfait. Et donc, cette esthétique-là est complètement en accord avec ce que raconte le film, avec l'aspect fake du film. Et donc, on se retrouve avec Kurosawa qui se met à parler de sujets dont il ne parle jamais, qui sont la pop culture, c'est-à-dire le manga, la science-fiction, La science-fiction un peu bas de gamme avec, avec ce pitch vu et revu. Les dinosaures, avec c'est quand même juste une idée de génie de prendre ce pléosaure, ce dinosaure absolument inconnu, comme image clé du film. Toutes ces images-là qui viennent de la pop culture, il les fait siennes et il se met à faire un film qui est absolument kurosawaïen, qui est complètement cette imagerie numérique un peu dégueulasse, d'effets spéciaux, ressemble aux fantômes qu'on voit dans Cairo, en fait. Et ça, je trouve ça absolument passionnant, parce que c'est une façon de se renouveler tout en reprenant tout le temps ses obsessions. Je cumule énormément de choses qui ont l'air de plein de choses différentes, mais en même temps c'est exactement ce qu'il fait. C'est un film extrêmement riche au final. Donc du coup on peut le prendre par n'importe quelle lorgnette. On en sort des thématiques et un esthétisme à chaque fois différent et en même temps à chaque fois passionnant. Donc j'ai beaucoup parlé. Je laisse la place à quelqu'un d'autre.
Au-delà de l'histoire d'amour aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que Kurosawa parle un peu de lui-même et de son voilà et de la façon qu'il a de voilà comment on accouche d'une œuvre, comment est-ce que voilà où faut aller chercher pour faire des films et pour écrire des choses et pour voilà tout ce processus de création qui peut être douloureux parce que on va chercher loin dans ses souvenirs, dans ses traumas, etc. Et faut penser que ce film-là arrive, voilà, il est sorti au Japon en 2013, en mai 2013 il me semble, ou en juin. Et donc Kurosawa n'avait pas fait de film depuis 5 ans vu que Shokuzai est une série télé à la base et qu'il était passé à la télé au Japon. Et donc finalement, 5 ans dans la vie d'un cinéaste, il s'en passe des choses et je trouve que ouais, cette idée de c'est une petite mise en abîme parce que moi je l'ai vu comme ça, ce coma c'est peut-être aussi le sien, c'est peut-être il s'est passé du temps, il a cherché, il a puisé et puis il nous sort cette histoire et il a fait lui aussi, il a fait peut-être face à ses démons, etc. Donc je trouve ça assez touchant dans ce sens-là aussi. Il n'y a pas que les personnages, il y a ce point de vue-là de l'auteur qui est assez présent, je trouve, et je trouve ça aussi assez touchant et assez profond. Et le film, c'est là qu'on voit que le film est d'une richesse assez folle. Plusieurs visions sont nécessaires et thématiquement, il y a plein de choses qui se bousculent. Et ce dinosaure, ce plésiosaure, c'est vrai que c'est une idée assez géniale. Et même si on a, voilà, c'est la métaphore, la personnification de notre culpabilité, tout ça, ça a été fait des milliers de fois. Le monstre, il est fait peut-être aussi pour ça, pour personnifier plein de choses, etc. Mais là, en l'état, ça donne un côté super féerique, un peu fantastique, mais du fantastique. Ouais, c'est assez Spielbergien même, j'ai envie de dire. On pense, c'est pas du Jurassic Park, mais c'est plutôt du Spielberg. Quand je disais tout à l'heure, sans cynisme, on est ébahi, il y a quelque chose de merveilleux en fait. C'est assez beau, cet aspect du film est assez beau.
Spielberg version J.J. Abrams, parce que cette espèce de pendentif qu'on fait passer, qu'on donne au monstre,
c'est très super vite.
C'est super vite. Mais il y a 1000 trucs à dire. On n'arrête pas de citer des références à chaque fois. Ouais. C'est parce qu'il brasse 1000 genres différents qui ont été déjà brassés par plein de réalisateurs. Mmh. Donc c'est très facile de sortir 1000 références. Mais quel que soit le genre qu'il attaque, et y compris le film de monstre à la fin, avec ce dinosaure qui sort et qui est vraiment menaçant, et qui pour le coup est bien fait numériquement, alors que justement il nous avait habitués à une esthétique très 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 fake jusqu'à présent. Là d'un coup, quand moi j'ai vu ce dinosaure, je me suis dit mais ah oui, quand même il a les moyens de faire un dinosaure qui paraît être crédible et j'ai l'impression qu'il existe vraiment. Ça dépend de ce qu'il veut en faire et ça dépend du besoin qu'il a besoin pour faire l'histoire qu'il veut faire. Donc, quel que soit le genre qui se met à aborder d'un coup, soudainement, c'est en fonction de son univers à lui et de ce qu'il a besoin et de ce vers quoi il veut se diriger. Je parlais des fantômes qui ressemblaient à des fantômes de Cairo. Ils les appellent dans ce film-là, on les appelle des zombies philosophiques. Il y a que Kurosawa pour sortir ça, en fait.
C'est très japonais en même temps.
Peut-être, mais comment dire, zombie philosophique dit comme ça, ça paraît un peu intellectuel ou je sais pas quoi, mais c'est typiquement le genre de cinéaste qui peut paraître d'intellectualiser les choses et qui en même temps tout est joué sur tout se base sur le ressenti, tout se base sur ce que tu vois, sur l'émotion qui en ressort. Et je trouve ça extrêmement fort, malgré un aspect, un rythme un peu foireux peut-être, malgré le fait que parfois on se dit une scène, deux scènes se répètent, il aurait pu en avoir qu'une seule. N'empêche qu'il y a quand même une intelligence d'écriture qu'on voit assez rarement.
Non, parce qu'il joue aussi sur la répétition, il joue sur le côté. Voilà, on voit le personnage principal qui joue au squash plusieurs fois, on voit.
Oui.
Il fait les allers-retours, la chambre, quoi, l'appartement qui prend l'eau au fur et à mesure, les murs qui s'effritent, voilà, cet espace mental, et au fur et à mesure, il y a des tout petits changements qui sont presque imperceptibles par moment, il y a des tout petits détails
mais ça c'est de la répétition intelligente et c'est quelqu'un qui est très moins intelligent donc il sait le faire, mais je pense qu'il y a aussi des répétitions inintelligentes, comme par exemple tu parlais des parties de squash, toutes les parties de squash sont suivies par une conversation avec la doctoresse qui arrive juste derrière pour résumer ce que le spectateur Exactement. Lambda n'a pas compris, c'est-à-dire le fameux zombie philosophique, c'est elle qui donne le terme et qui dit ah oui, alors ce que tu as vu en fait c'est ça, et donc pour t'expliquer en fait ça se passe. À titre personnel, je n'avais pas besoin de ça.
C'est le côté surexplicatif que je dis.
Un peu,
une vision tautologique où ce que l'on comprend par l'image,
oui, voilà,
déjà dans un premier temps, doit être expliqué au spectateur. De peur qu'ils soient un peu perdus dans l'univers.
Mais il y avait la même chose dans Shukuzai.
C'est l'apanage d'une grosse production, quoi. Voilà. Soit américaine ou japonaise.
Il y avait la même chose dans Shukuzai. C'est Shukuzai qui est très, très traité. Shukuzai, ça terminait par une séance de dialogue où tout ce qui n'était pas clair est révélé très clairement par le dialogue. Et je sais que moi, je connais beaucoup de gens qui ont été extrêmement gênés par ça. Et comment dire ? Moi, ça m'a pas gêné parce que j'ai trouvé ça tellement fort que justement, comment dire, il arrive à utiliser ces contraintes-là qui sont que il faut que ce soit très clair pour le spectateur, faut pas laisser de zone d'ombre, chose qu'il n'avait absolument aucun problème à faire quand tu regardais Cairo ou Cure. Là, pour le coup, faut être très 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 clair. Et il arrive à rendre ça cinématographique quand même, des scènes de dialogue extrêmement explicatives, à une ou deux sections près, il arrive à le faire dans ce film-là, tout comme il arrivait à le faire dans Shukuzai. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça très très fort, et c'est peut-être imposé donc à critiquer, parce qu'on est à peu près sûr qu'il n'aura pas fait ça comme ça, si jamais il y avait un mec derrière pour lui dire ça, il faut que ce soit clair, mais il arrive à utiliser de façon très intelligente ces contraintes-là pour les expliquer. Après, c'est vrai que ce serait absolument génial s'il arrivait à dire je vous emmerde et je fais ce que je veux, comme peut-être il arrivait à le faire dans une époque meilleure dans le cinéma japonais.
Ouais, je pense qu'on aurait eu un dinosaure beaucoup moins réussi.
C'est ça.
À ce moment-là, oui, bien sûr, mais c'est ça. Là, on a un problème. C'est que Keiro, à la fin, ça se termine aussi à un moment où on a besoin d'effets spéciaux très forts pour montrer l'apocalypse. Et les effets spéciaux sont foireux. Pourtant, Keiro est peut-être sûrement un meilleur film que Real, parce que on s'en fout dans le fond des effets spéciaux. C'est juste qu'il avait la beaucoup plus de liberté qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin, peut-être. N'empêche que sous connaissance de ses contraintes, je trouve ça extrêmement impressionnant la façon dont il arrive à garder l'esprit de sa filmographie et de son savoir-faire tout en devant faire avec ce qui se passe actuellement dans le cinéma japonais peut-être.
Après ces scènes, excuse-moi. Après ces scènes, voilà où on explique. Où les docteurs expliquent, où il y a beaucoup de choses qui passent par les mots et non par l'image, je trouve que ça rajoute, même si on sait que c'est des contraintes, etc., mais ça rajoute une candeur, ça rajoute un petit, je sais pas, un petit truc. Là, on pense aussi à Spielberg aussi, il y a un petit côté naïf, un petit côté, je t'explique un peu, et je sais pas, ça rajoute un peu au charme du truc. J'ai pas trouvé ça super lourd, même si, on peut s'en passer. Moi-même, à la deuxième vision, ça m'a un peu gêné, mais je me dis que le film, je sais pas s'il aurait été aussi réussi autrement. Je sais pas s'il aurait été plus réussi autrement, en tout cas.
Non, je pense qu'il a fait la meilleure adaptation qu'il pouvait faire de ce truc-là.
Je pense qu'il a tiré parti.
Et puis basta, quoi. On ne peut que retenir l'aspect positif et dire merde à l'aspect négatif, à mon sens.
Vas-y Victor, si tu voulais dire.
Non, mais je voulais donner la parole à Christophe justement.
D'accord.
Vous écoutez avec attention tout à l'heure.
Ce qui est intéressant, c'est la place du twist. Il me semble pas que le twist arrive en milieu de film, plutôt peut-être en premier tiers de film. Il y a presque trois parties de film. D'abord, on croit qu'il y a l'homme qui va chercher dans l'esprit de sa femme des clés pour la ramener à la vie. Après, on se rend compte que finalement, c'est la femme qui fait l'inverse, qui va dans l'esprit de son homme pour le ramener à la vie. Et du coup, ça, c'est deux parties. Il y a encore après une troisième partie qui serait que tous les deux, ensemble, avec leur expédition sur l'île et d'autres choses, résolvent ensemble la problématique pour ramener le partenaire aimé à la vie. Et c'est du coup tout ce qui est le fantôme avec un petit garçon qui apparaît sous forme d'un dinosaure. Et du coup, c'est un troisième personnage qui apparaît dans un dernier tiers. Et c'est les deux alliés, les deux amoureux qui vont ensemble faire en sorte de faire... de résoudre dans l'énigme. Et il y a une chose qui est très, entre guillemets, Kurosawa au début, c'est par rapport à son interrogation sur la réalité, ce qui est réel ou pas réel. Il y a des choses qui sont bizarres, qui perturbent le réel. Il y a des dessins que dessine la dame qui se matérialise sous forme de cadavre, que voit l'homme, soit sous forme d'hallucination, où il y a un pistolet qui apparaît, on ne sait pas s'il l'a ou il ne l'a pas. Et ces choses bizarres apparaissent dans le premier tiers. Après, c'est laissé un peu de côté. Et après, ça revient sur une chose très Kurosawa, c'est le fantôme et puis l'esprit qui n'est pas en paix et qui, du coup, embête les vivants.
Donc, c'est assez flippant, là, de voir quoi ça marche. Quoi. L'imagerie, elle fonctionne, même si, comme tu disais, il y a un côté fake assumé totalement. Mais je trouve qu'il y a une horreur, il y a une terreur qui arrive d'un coup, une angoisse. Et c'est là qu'on sent les petits indices que Kurosawa il laisse au fur et à mesure. C'est que... Il y a l'angoisse du personnage masculin, elle est là, et on sent que c'est pas net quoi, ce qui se passe. Il y a un truc qui va pas, et au fur et à mesure, ça se dérègle, et puis jusqu'à la résolution, le twist, etc. Et oui, la troisième partie, comme tu disais, où les deux sont ensemble, et justement, ils sont unis à nouveau, et là, c'est les vrais personnages qui sont... et tu sens vraiment leur connexion. Là, Nicolas, tu sentais pas la connexion, mais dans la troisième partie, quand vraiment, c'est les deux vrais persos, tu sens vraiment leur connexion.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, je dis que la dernière partie était magnifique.
Ouais. Et donc là, tu sens la connexion et ils vont tous les deux chercher la résolution, comme tu disais, Christophe, à leur souci. Et là, encore une fois, c'est le côté très, c'est la grosse histoire d'amour au-delà de la mort, etc. L'amour plus fort que la mort et tout ça. Donc c'est mignon, quoi. Faut se laisser emporter par ce truc-là, mais si on se laisse emporter dans cette troisième partie, je pense que tout ce qui s'est passé avant prend sens, même quand on aperçoit ce monstre. Il y a tellement de choses qui passent avec ce monstre-là, même avec son regard, on arrive à percevoir des choses. Il y a quelque chose qui passe avec ce monstre, et c'est culotté d'avoir mis ce gros truc en image de synthèse. Qui sort un peu de nulle part finalement, parce qu'on ne s'attend pas à ce que dans un film comme ça il y ait une irruption comme ça d'un monstre, et je trouve que c'est culotté, en même temps ça fonctionne vraiment à 100% quoi, mais c'est très beau.
On s'attend toujours à ce qu'il y ait l'histoire d'amour, le grand amour de la vie entre l'homme et la femme, et c'est presque une histoire d'amour à trois, parce que du coup il y a l'homme, la femme, puis aussi une troisième personne qui est dans l'histoire, qui a été ignorée longtemps et dont on s'aperçoit à la fin de son importance entre les deux.
Les deux l'ont refoulé finalement, il n'y a pas que le mec, quoi, parce que même elle, parce qu'elle aurait pu s'en souvenir aussi, et elle aussi, elle l'a refoulé, ou elle l'a oublié, ou je ne sais pas. Et ouais, c'est le passé qui ressurgit, et enfin ils font la paix avec eux-mêmes, il y a toute cette idée, puis la fin, ça repart, quoi. Là, les gens applaudissaient, mais c'était pas fini, et justement, et donc voilà, ça se finit sur quelque chose de très, très positif, et très, puis avec la musique qui va bien en plus, donc non, c'est, ouais, c'est des images qui restent, hein, qui marquent. Victor, vas-y, hein, parce que t'as pas beaucoup parlé.
Non, mais en fait, vous m'avez convaincu. Je pense que je vais aller revoir ce beau film une troisième fois, très, très certainement. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Reel. Voilà, donc il est en salle donc dès demain, le 26 mars. Par ailleurs, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast bilan du mois de mars. Et bah merci à tous, et particulièrement à Frédéric qui était invité donc à Deauville avec nous, et à Christophe. Donc vous pouvez retrouver ces textes sur écrannoir.fr, ainsi qu'à toute l'équipe. See you, Space Cowboys.
Salut.
Merci.
Donc après Shokuzai, c'est votre deuxième incursion, c'est votre deuxième adaptation. En fait, qu'est-ce qui vous a plu, en fait, qui t'a attiré dans ce projet?
Shokuzai が原作を映画化したものだったんですが、これで2度目の挑戦になるわけなんですけども、やはり映画化をすることに何か充実感を得たというか、またやりたくなったってことなんでしょうか。
そうですね、実は食材の前は東京ソナタという、まあ、このオリジナルのストーリーですけどもというのがあって、そこからもう4年ぐらい全然映画を撮れない時期がありました。それでオリジナルのストーリーを何本も脚本に書いていたんですが、全然実現せず、日本ではやはりオリジナルのストーリーより原作の方があった方がお金が出やすいという事情もあって、まあもうどこか割り切って打算的に食材をやってみたら、これが自分がオリジナルって考えたストーリーとはまた全然違う原作ものを自分なりにアレンジする、その楽しみというのが食材で初めて、それを経験して、あ、こうで、まあ、もう一度、まあ、リアルでもこういう原作があったので、食材で味を占めて、まあ、それもう一度トライしてみたという流れです。
Pour expliquer un peu la façon dont effectivement ces projets se sont faits, le dernier film basé sur une histoire originale que j'ai réalisé, c'est Tokyo Sonata. Or après Tokyo Sonata, pendant presque 4 ans, aucun projet ne s'est vraiment présenté à moi. J'ai écrit beaucoup de scénarios, aucun n'a été retenu, et il se trouve qu'au Japon c'est vraiment plus facile de décrocher à la fois des financements et puis aussi des opportunités auprès de producteurs quand ce sont des projets d'adaptation d'une œuvre originale à l'écran. Et du coup, au départ, quand on m'a proposé Shokuzai, j'étais pas spécialement enthousiaste, mais comme ça faisait 4 ans que j'avais pas tourné, je me suis dit qu'il était quand même temps que je me remette au travail, donc j'ai accepté. Et il se trouve que j'ai découvert un plaisir nouveau, qui est celui de se réapproprier une œuvre déjà existante et puis de l'arranger un peu à sa sauce pour la mettre en image. Et du coup, je me suis dit qu'après tout, c'était aussi un autre type d'exercice, mais que c'était tout aussi intéressant. Et donc, quand on m'a proposé Reel quelques mois plus tard, je me suis plus volontiers lancée dans l'aventure que pour Shokuzai, où j'y étais d'abord allée un peu à recul.
Donc, au Japon aujourd'hui, c'est vraiment vraiment très très difficile de monter un projet plus original.
やっぱり自分で書いたオリジナルストーリーを映画化しようというか撮影しようと思ったら、今の日本だと難しいという現状はあるんですか？
あります。そうですね、どうしてそうなのかというのは僕もよくわからないんですけども、オリジナルストーリーですとやはり、まあ、世間にあまり知られていないという、そのストーリーは初めて生まれるものですから、そういうものはプロデューサーが警戒して、まあ、本当に安いバジェットだったら可能なんですけど、ある程度のバジェットを得ようとするとこういう原作があると、まあ、それはその原作が必ずしも大ヒットした原作でなくてもいいんですけど、一応もう 完成した物語がそこにあるということがすごくその資本家のお金を集めるのにとても都合のいい証拠になっているようですね。
Moi-même, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais effectivement, c'est plus difficile de mettre en scène et de mettre en image une histoire originale. Les producteurs, généralement, sont très frileux. C'est peut-être le contexte économique qui veut ça aussi, mais il se trouve que, quel que soit le projet original déjà existant, une adaptation est toujours mieux acceptée. Je pense que c'est notamment auprès des investisseurs que c'est beaucoup plus facile de solliciter des financements. Et alors, c'est possible de réaliser des films basés sur des histoires originales si le budget est vraiment un tout petit budget, mais si on veut réaliser un film à une certaine échelle quand même, d'une certaine ampleur, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué.
だから、まあ、時々笑い話のように、まあ、あるよく聞く話はある原作があってそれでお金をが集まったとでプロデューサーが脚本家に、この原作すごくつまらないんだけどお金が集まったんでなんとか面白く書き換えてくれって、注文を出すなんていう話は笑い話ですけどよく本当にある結構あると聞きます
Et on entend dire, alors c'est à moitié sur le ton de la plaisanterie, mais quand même, parce que l'adaptation, à partir du moment où c'est une adaptation, est donc beaucoup mieux acceptée, quel que soit le projet original. Et on entend souvent dire que les producteurs viennent voir les réalisateurs en disant, alors voilà, j'ai un roman, j'aimerais que tu l'adaptes, le roman est vraiment nul, mais je me demandais si tu pourrais pas en faire quelque chose. Donc voilà, c'est dit sur le ton de la plaisanterie, mais je pense que ça reflète bien quand même l'état actuel du cinéma japonais.
Et donc, de ce fait, qu'est-ce que vous avez pensé en fait, du roman original
pour celui-ci,
pour celui-ci
ouais.で今回のリアルっていう、はい、小説を読んで実際どう思われたんですか最初は、
はい小説は面白かったですただこれを映画化するのは非常に難しいと思いましたまあ、非常に複雑なストーリーで、しかもこう、ま、良くも悪くもなんですけど、まあ、非常に文学的なので明快でないところが、まあ、たくさんあったのですねだからとても難しいと思いましたがやっぱ基本となっているアイデアはとても面白いと思いました、まあ、それは何かというと人の意識の中に入っていったらそこに自分が忘れていた自分自身の過去がそこで見つかるというこのアイデアは非常に面白かったので、なんとか映画にしたいと僕が映画にしたいと思いました
Alors le roman original est très intéressant, je l'ai plutôt aimé. Par contre c'est un roman qui est très complexe au niveau de l'intrigue, donc je me suis dit que tout de suite en le lisant que ça allait être difficile à adapter à l'écran. Alors c'est à la fois positif comme négatif, c'est-à-dire que le roman est très littéraire, le style est très littéraire et du coup il y a beaucoup de zones qui étaient assez difficiles à comprendre de mon point de vue.Mais en dehors de ça, l'idée centrale du film, qui est donc de pénétrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre et d'y découvrir une partie de son propre passé qu'on avait oublié, cette idée-là me semblait vraiment très intéressante et pour ça, j'ai vraiment eu envie d'accepter le projet.
Et tout à l'heure, vous parliez de s'approprier en fait, l'œuvre. Quel a été votre processus pour ce faire ?
Ah non, 先ほど自分の、まあ、作家性を原作に取り入れて映画化に進むっていうことを、はい、言われたんですけどもそれは実際どういう仕事の仕方なんでしょうか、
はい、ですね、まあ、そんなに大げさなことではないんですが例えば今回のリアルで一番リアルを脚本にしているときに一番苦労したのは小説では何度も、まあ、過去に戻る、まあ、どれぐらいの過去なのかよくわからないんですけどなんかすごく前に戻っている戻ったりまた現在になったり、まあ、いろんな時間に飛ぶという構造になっていましたでそれをなんて言うんでしょう僕は基本的に映画というのはやはり未来に向かって進んでいく、あんまり過去に戻るんじゃない、進んでいく表現だと というのが僕の考え方なんですね。ですから、どうやってこの戻る話を実際過去なんだけども、主人公にとってはそれが先のように思い出している、というんじゃなくて、自分の過去が先にあるといったような表現になるかというのは随分苦労して、考えました。
Alors je disais se réapproprier, c'est pas forcément toujours un très grand effort ou un très grand exercice, mais pour ce film-ci précisément, ce qui a été difficile, c'est que dans le roman, et c'est aussi la forme littéraire qui permet ça, il y avait énormément d'allers-retours entre le passé et le présent. Donc il y avait beaucoup en fait de passages rétrospectifs sur ce qui s'était passé autrefois, on va dire. Or pour moi, le cinéma, c'est difficile. Enfin, en tout cas, ça aurait été difficile de le mettre en scène en l'état, parce que je considère que le film doit se dérouler plutôt vers le futur, c'est-à-dire que pour moi, c'était important que même les scènes qui évoquaient le passé continuent de faire avancer l'intrigue, et que ça vraiment déroule le film plutôt vers l'avenir que vers le passé. Et donc, réécrire, réorganiser, on va dire, toute la narration a été vraiment compliqué pour ce projet-là.
Un aspect du film est totalement ancré dans la science-fiction. Comment avez-vous travaillé cet aspect-là de la science-fiction ?
今回の作品は本当にある意味 SF 的な一面を持つ作品なんですけども、それはまあどういう意図で取り掛かれたんですか？
はい、SF 映画はもう本当一度昔から一度はやってみたいという、ジャンルでした。ただまあなかなかそれこそお金がかかりますし、自分からオリジナルの SF の物語を書いて、プロデューサーに持っていっても、まあ、大抵成立しないというのは分かっていましたから、これまで、なかなか手は出せなかったんですが、今回プロデューサーから依頼があったのが、まあ、やはりおっしゃる通り SF 的な要素があったので、もうこれこそ待ってましたと、実は前から望んでたんだということで、その点に関してはもう本当に、何の迷いもなく SF に挑戦してみたいという欲望が素直に出たということです。
À vrai dire, j'ai toujours eu envie de faire un film qui soit un peu un film de science-fiction, sauf que j'ai conscience que déjà que c'est difficile d'écrire des histoires originales et que ces histoires soient acceptées par un producteur. Quand il s'agit de SF, c'est quasiment impossible, donc je ne m'imaginais pas le faire et je ne m'étais jamais vraiment attelée à la question. Et du coup, quand on m'a proposé ce projet-là, qui, comme vous le dites, intègre des éléments de science-fiction dans l'intrigue, et je me suis dit que c'était vraiment une occasion en or. Donc j'ai vraiment abordé la question de façon très enthousiaste et avec beaucoup de motivation.
J'ai pensé dans tout film à Je t'aime, je t'aime d'Alain Resnais. Est-ce que ça a été une influence et quelles ont été les influences?
C'est un film ancien de René. Il n'est pas sûr de l'avoir vu, à vrai dire, mais il ne sait pas trop, parce que ça se trouve, c'est juste qu'il ne s'en souvient pas.
Est-ce
qu'il y a des films qui l'ont influencé? Mais vraiment, quand on a vu le réel, on a vu René's films. Est-ce que c'est vrai?
Je vais commencer à revoir. Est-ce qu'il y a
d'autres films qui ont été influencés ou qui ont été inspirés par ce film? Est-ce qu'il y a d'autres films qui ont été
影響されるとかインスパイアされるという作品はなかったです、全くオリジナルなストーリーだなとは思いましたが、似たような設定の映画は近年特にアメリカ映画に何本かあったというのは分かっていました。まあ、その代表はインセプションという映画ですね、クリストファー・ノーランのすごく、まあ、似た要素がある、あるいは れもちょっと似ていたかな、マーチン・スコセッシのシャッターアイランドもちょっと似ている気がしました。だからアメリカ映画には時々こういうのがあるんだというのは意識はしました。
Je ne me suis pas sentie spécialement influencée ou inspirée par d'autres films. Par contre, j'ai conscience que certains films récents, on va dire, traitent à peu près du même sujet. Des films américains, notamment Inception de Christopher Nolan, là très récemment. Et puis peut-être aussi Shutter Island de Martin Scorsese. Je trouve qu'il y a des éléments voilà, qui sont un peu communs en termes de questions abordées, de thèmes abordés. Mais pour le reste, je n'ai pas vraiment eu conscience en tout cas de m'inspirer de quoi que ce soit.
En fait, si je parle de thème, c'est parce que ça a la même insinuation du fantastique en fait, peu à peu dans le quotidien. Et comment il a travaillé visuellement en fait, cet aspect-là, ce fantastique qui arrive petit à petit.
その先ほどレネの作品の話をしたんですけど、その作品にはそれこそ日常的な風景に少しずつファンタスティックな要素が取り入れられるっていう作品なんですけども、それこそファンタスティックな要素が少しずつ現れるっていう一面に関しては、どうやってそれをどう映像にするとか、それに関しては、
はい、それに関しては相当気を使っていろいろ細かいことをやっています。例えば室内のシーンで窓の外に見えている風景とかが実は少しずつ変化したりしているのですが、これはまあ作ってみて分かったんですけど、その微妙な日常から非日常に移る変化とか、そういうのは見ている人はそんなに気にならない。つまりそれこそ非にストーリー的には全然、非日常だと非現実だと分かっていても、見ている人にとってやっぱ全て映画という一つの現実、フィクションであるけども目の前スクリーンで起こっている現実なんだな、微妙な変化違いというのはもうどうでもよくて、本当に主人公がこの先どうなるのか、それにもみんな気を取られているということが作ってみて分かりました。だからほとんどで、ね、細かいやったことは、何の効果もなかったなと今反省しているところです。
Alors, pour ces incursions du fantastique qui sont effectivement très progressives, c'est-à-dire au départ, je pense qu'elles sont même imperceptibles. Et à vrai dire, après avoir terminé le film et en ayant eu justement quelques réactions, je me suis rendu compte que tous les efforts que j'avais fournis justement pour, de façon discrète, faire apparaître des changements, c'est-à-dire passer du quotidien à quelque chose qui serait un peu extra quotidien, c'est-à-dire par exemple les paysages qu'on aperçoit de l'autre côté de la fenêtre qui en réalité évoluent un petit peu à chaque fois, je me suis rendu compte que les spectateurs soit n'y prêtaient pas forcément attention, soit à vrai dire n'y accordaient pas une très grande importance, parce que pour eux ce qui est vraiment important c'est ce qui va arriver au personnage et comment va se dérouler l'intrigue, parce que ce qui peut paraître extraordinaire dans la vie réelle ou dans la vie courante, une fois qu'elle est adaptée à l'écran, c'est-à-dire une fois que c'est devenu un film, en fait il se trouve que ça leur convient très bien, que ce soit réel ou irréel, ça n'a pas tellement d'importance. Donc je me suis dit que peut-être j'avais fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose, parce qu'au final c'est pas si perceptible que ça à chaque fois.
Il y a quelque chose de plus concret à la fin du film, c'est ce monstre, c'est ce monstre qui surgit un peu dans le cadre. Et donc est-ce que c'était important pour lui de personnifier tout ce qui se passait en fait dans la tête des personnages par ce monstre? Comment s'est passé techniquement même le processus de création?
Saigoni Kubinagaryuga 本物となってというか現れるんですけども、それは結局主人公の頭の中でずっと繰り広げられてきた非現実なものがいきなり現実的になるシーンなんですけども、やはりそのシーンには特別こだわっていたんでしょうか。
最もこだわりました。実は原作にはあの設定はないのです。首長竜出てくるんですが、小さな人形として部屋に置いてあるとか、遠くの海に一瞬その影が見えるとか、そういう表現にはなってるんですけど、それこそ 忘れてしまった自分の過去のシンボルとして首長竜が時々出てくるんですけれども、僕はそれをもう最後は本当に目の前に登場する現実に目の前に立ちはだかるものとしてどうしても表現したかった。それはプロデューサーも相当心配しましたけども、いや絶対それがやりたいと強く願って、このシーンを撮らないとこの映画を撮る、これを映画化する意味がないと強く言って、実現したシーンです。
Alors, l'apparition du plésiosaure était vraiment indispensable pour moi. Il se trouve que dans le roman original, la séquence n'existe pas. Le plésiosaure apparaît, mais plutôt sous forme symbolique. On le voit sous la forme de petites maquettes ou de, voilà, de petites figurines. Et puis sinon, il y a certaines séquences où on aperçoit son ombre vraiment au loin, dans le fond de la mer, par exemple. Mais il n'est jamais matérialisé. Vraiment, et moi je tenais absolument à ce que justement il soit plus ou moins personnifié, enfin matérialisé, et que justement l'incursion du réel boucle la boucle de cette espèce de périple, on va dire plutôt psychologique. Et du coup, le producteur au départ était très réticent, ce qui m'a dit non, je pense que c'est pas une bonne idée, mais moi je tenais vraiment à cette séquence là parce que pour moi, sans cette séquence, le film perdait tout son sens. Donc c'est une scène pour laquelle j'ai effectivement beaucoup bataillé.
Merci.
En tout cas, elle est pas mal.